Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à Canal Académie et à l'émission Un jour dans l'histoire. Je reçois aujourd'hui Gabriel Debreuil. Gabriel Debreuil, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est la troisième fois que je vous reçois à ce micro. Nous avions évoqué ensemble l'entente cordiale il y a bien longtemps.
Parfaitement.
Nous avons aussi parlé de cette personnalité fascinante qui est François Guizot. Et nous allons rester sur cette époque de la monarchie de Juillet, puisque vous venez de publier une monographie sur le sujet aux éditions Fayard, donc la monarchie de Juillet, tout simplement 1830-1848. Vous êtes membre de l'Institut, membre de l'Académie française et de l'Académie des sciences morales et politiques, et enfin chancelier de l'Institut de France. Alors Gabriel Debreuil, vous démarrez votre ouvrage par une réflexion qui me semble très importante sur l'histoire. Historiographie. On ne fait pas assez de réflexions sur l'historiographie. Vous en faites une pour démarrer cet ouvrage et pour présenter au fond ce régime et la justification de ce régime. Vous commencez votre ouvrage par une réflexion sur le fatalisme historique et au fond la linéarité de l'histoire. Il n'existe pas, dites-vous, de déterminisme en histoire.
Oui, je le crois profondément, très largement. Et je l'applique. Cette croyance, je l'applique à la tranche de temps, la période de la monarchie de Juillet, parce que elle est mal connue, elle est mal jugée, et surtout, elle est jugée de manière rétrospective, en ayant en présent à l'esprit son échec, et toute la vue que, généralement, l'opinion française a conservée de la monarchie de Juillet est rétrospective, c'est-à-dire qu'il y a eu l'échec et donc c'est un régime qui n'a pas marché. Alors moi, je veux lutter contre cette perspective et en effet, j'adopte un point de vue de développement, les origines, les causes, les origines, les virtualités, toutes les virtualités qui existent dans les origines de 1830. Il y avait plusieurs orientations ont été essayées. Et puis, les choses se sont développées. C'est une période de transformation profonde, de tout point de vue, politique et parlementaire, mais aussi dans le domaine des idées, des arts, des lettres, de la littérature, le romantisme, économique, urbanistique, touristique, social. Enfin, c'est une grande période de transformation.
Alors, nous allons bien évidemment y revenir. Je reste quand même encore quelques minutes sur cette vision historiographique. Vous dites qu'on a, au fond, une vision de l'histoire qui est un peu anthropomorphique, vous le disiez d'ailleurs. On voit les origines, on voit le déroulement, et puis la mort d'un régime. Or, il y a une grande place dans l'histoire à l'indéterminé. Ce sont les possibilités que vous évoquiez. Le hasard.
Oui, c'est ça.
Il y a à la fois le hasard et aussi
le hasard
des hommes politiques.
La conjugaison des forces à l'œuvre qui peuvent donner des résultats tout à fait imprévus. On ne sait pas. Et dans ces forces à l'œuvre, il peut y avoir de tout petits incidents qui ont des conséquences graves, imprévues, et qui orientent les choses, ou la conjugaison des forces de manière différente. C'est un perpétuel devenir, l'histoire, n'est-ce pas ? Il y a le hasard, mais il y a aussi le mouvement des forces, une dynamique en quelque sorte.
Alors, j'en viens à notre sujet, peut-être une question généraliste. Prenons en vision donc tout ce 19e siècle, la monarchie de Juillet est en quelque sorte engoncée entre cette légende napoléonienne, glorieuse, Napoléon Ier, voilà, et Napoléon III, qui d'ailleurs revient au pouvoir grâce notamment à cette légende napoléonienne et cette gloire. Et la monarchie de Juillet apparaît comme un régime monotone. C'est un régime sans guerre. Voilà. Est-ce à dire que, au fond, les Français préfèrent la guerre à la paix ?
Ça a été un thème constant sous la monarchie de Juillet, n'est-ce pas ? La monarchie de Juillet a restauré les trois couleurs. Et il s'est produit en juillet 1830 un événement vraiment considérable, une libération de la société, un mouvement social profond. Et ce mouvement social, il était inspiré notamment par les grands souvenirs, il faut le dire, de la Révolution et de l'Empire. La France vivait encore de sa légende impériale et des grandes journées révolutionnaires, et l'esprit a ressurgi à cette époque-là. 1830 est plein de ces virtualités-là, c'est-à-dire une révolution. C'est une révolution, c'est pas des barricades, mais enfin une révolution. Et en même temps, l'éclosion de la liberté. Le retour aux traditions, à toutes les traditions nationales, mais en particulier l'Empire, la gloire, la légende, les trois couleurs, et puis un régime progressiste en même temps. Donc un moment de l'histoire, 1830.
Alors, vous utilisez le mot de révolution, ce n'est pas encore une révolution socialiste telle qu'on la concevra au XXe siècle, c'est plutôt une révolution bourgeoise ?
Oui, ce n'est pas du tout une révolution de contestation, de pauvreté, de revendication, et le socialisme n'est pas encore formulé, n'est-ce pas ? Il est bien entendu présent dans certains esprits, mais il se formulera d'ailleurs au cours de la monarchie de Juillet, assez lentement, pour avoir vraiment sa vraie formulation en 1848. Mais pour le moment, ce n'est pas cela en 1830. C'est une révolution dans les esprits. Et en même temps, elle est sociale, bien entendu. Alors, elle est sociale, c'est la bourgeoisie, les classes moyennes, qui veulent prendre les rênes du pouvoir parce qu'elles s'estiment capables, parce que c'est la continuation de la révolution de 1789-90-91. Il y a une révolution confisquée qui est à reprendre pour que la société française soit gouvernée bien par la classe moyenne, par les milieux qui finalement agissent et contribuent à l'enrichissement de la France pendant cette période, et que cette bourgeoisie le fasse de manière éclairée, tolérante, progressiste, avec un peu d'influence de l'Angleterre pour orienter les choix politiques, les choix de régime parlementaire, et des essais, des tentatives de liberté de la presse, quelques libertés pas encore complètes, mais enfin tout de même, la société se commence à bouger.
Alors, il y a Louis-Philippe donc, qui arrive au pouvoir. On est surpris par, au fond, cette précipitation des événements dans la fondation du régime. Mais il y a une précipitation fruit de la Révolution, mais la Révolution s'arrête quasiment tout de suite. Il y a une maîtrise de cette Révolution, ce qui n'était pas le cas, au fond, en 1792-1793.
Voilà, c'est à la fois une journée parisienne.
Oui.
Comme on a bien l'habitude, n'est-ce pas ? L'histoire de France au 19e est rythmée par des journées, la journée, mais qui sont des journées exclusivement parisiennes. La France n'a pas bougé. Et l'esprit de certains, c'était la reprise de la succession des journées révolutionnaires qui pouvaient aboutir à je ne sais quoi, la société se mettant en feu, n'est-ce pas ? Et l'expérience a fait que tous ceux qui étaient aux commandes ont voulu éviter le retour des violences. Et en même temps, la bourgeoisie n'avait pas envie d'entreprendre de nouvelles périodes de troubles et de contestations. Et donc, dans cette éclosion de juillet, il y a une force révolutionnaire qui est très vite captée, dérivée, et par une transformation qu'on l'a calculée en 3 jours, les Trois Glorieuses. En réalité, ça a pris un peu plus de temps que ça, une dizaine de jours. Mais en une dizaine de jours, le mouvement qui pouvait déclencher une vraie révolution sociale a été dérivé vers une substitution dynastique, à l'exemple anglais, vers une monarchie parlementaire et libérale et progressiste et de la bourgeoisie.
Alors, il y a un débat que vous présentez avec une subtilité de langue. Je vous cite, durant les premiers jours d'août, un débat fiévreux agite le microcosme politique sous forme d'une alternative formulée dès l'origine en ces termes. Le duc d'Orléans doit-il régner parce que Bourbon ou au contraire, quoique Bourbon ? Ce qui pose, au fond, la question de la rupture. Est-ce que la monarchie de Juillet est une rupture ?
Oui, toute la difficulté de l'origine est là. C'est en germe, il y a différentes orientations. D'abord, il y a eu le danger républicain. Et pour écarter le danger républicain, les esprits, disons, raisonnables et qui avaient préparé le mouvement ont cherché à présenter la candidature de Louis-Philippe. Louis-Philippe, parce que Louis-Philippe, duc d'Orléans, général de la Révolution, à Valmy, à Jemappes, n'est-ce pas, c'est pas rien, les trois couleurs, un prince ayant combattu sous les trois couleurs pendant la Révolution. Mais en même temps, il est le premier prince du sang. Il est un personnage considérable dans la monarchie légitime. Cadet, certes, mais enfin, il est Bourbon. Et alors, on fait appel à lui. Est-ce que c'est parce que Bourbon, pour qu'il n'y ait pas de révolution, ou est-ce que c'est quoique Bourbon, parce que c'est un personnage qui incarne peut-être l'avenir, une autre orientation, bien qu'il soit en effet de cette... Alors, dans ce débat sémantique, mais tout à fait révélateur, il y a pesé beaucoup les mauvais souvenirs de la Restauration, n'est-ce pas ? Si ce débat existe, c'est que la France veut sortir de l'orientation rétrograde de la Restauration sous le règne de Charles X. Mmh. C'est un rejet complet du côté rétrograde du règne de Charles X.
Alors, la légalité semble prévaloir, et d'ailleurs, ce mot de légalité est très important pour Louis-Philippe jusqu'au dernier moment, puisqu'au moment de l'abdication, il dira de mémoire, j'ai toujours respecté la légalité. Donc, on est plus finalement dans le progressisme que dans le conservatisme, même si la Révolution est contenue précisément par ces forces conservatrices.
Oui. Oui, oui. Disons tout de même qu'il y a un autre débat qui sera récurrent pendant toute la période, c'est celui de l'usurpation. Y a-t-il eu usurpation ou pas ? Y a-t-il eu succession légitime ou pas ? Les choses sont très floues, très. Le débat ne sera jamais complètement tranché. J'essaye d'éclairer les choses en disant, s'il y a usurpation, en quoi consiste-t-elle ? Et je l'indique en quoi elle consiste. Il y a eu tout de même usurpation. Il y a eu usurpation parce que Charles X, le dernier roi, avait nommé Louis-Philippe d'Orléans lieutenant général du royaume, ce qui veut dire garder le royaume pour moi ou pour mes successeurs, et que, étant nommé lieutenant général du royaume par le roi, il est en même temps nommé lieutenant général du royaume par l'Assemblée, et qu'il a pris cette seconde nomination comme la bonne, et il a accepté la couronne.
Gabriel Dereuil, nous nous retrouvons dans une poignée de secondes. À tout de suite.
Avec la série Les Académiciens racontent l'histoire sur Canal Academy, laissez-vous transporter dans le temps à la rencontre des hommes et des femmes qui ont fait notre histoire.
Écoutez l'évocation de l'impératrice Eugénie racontée sous la plume des académiciens historiens Mérimée, Gaxote, Lavis, Lacour Gaillet, Aubry, Paléologue.
L'impératrice était belle et sa beauté a été justement célébrée. En 1867, quand Filon la vit pour la première fois, le temps avait marqué sur elle les traces de son passage.
Je suis venue au monde pendant un tremblement de terre. Ma mère accoucha sous une tente dans le jardin. Qu'est-ce que les anciens auraient dit d'un tel présage ?
Retrouvez l'impératrice Eugénie dans les programmes de Canal Academy.
Nous entamons la deuxième partie de cette émission consacrée à la monarchie de juillet. Je reçois le chancelier Gabriel Debreuil, donc auteur d'une monographie sur la monarchie de juillet 1830-1848, parue aux éditions Fayard. Alors, nous étions sur le débat de savoir s'il y avait une rupture ou non. Il y a en fait une question qui est assez emblématique d'une société au fond qui est en mutation, c'est la question religieuse, vous l'abordez, le pouvoir, alors que le pouvoir monarchique était associé à la religion catholique, il s'en sépare.
Oui, c'est un des points qui éclaire beaucoup ce que c'est que la monarchie de juillet. L'éclosion de 1830, qui était un vrai mouvement d'idées, a fait ressurgir l'anticléricalisme. Ça a été un mouvement d'anticléricalisme, qui s'explique d'ailleurs à cause du caractère trop clérical de la Restauration, du règne de Charles X, à cause peut-être d'excès d'autorité de la part du clergé, du haut clergé catholique, pendant la Restauration. Et donc, dans l'esprit républicain, il y a l'anticléricalisme, qui s'est manifesté de manière très vive, très violente même, avec des manifestations, le sac de l'archevêché, le sac de Saint-Germain-l'Auxerrois, c'est-à-dire la foule envahissait Saint-Germain-l'Auxerrois et cassait tout. De vraies manifestations d'anticléricalisme. Et puis, Louis-Philippe, très sagement, mais très progressivement, c'est là que les forces à l'œuvre, n'est-ce pas, jouent, s'est aperçu que s'il voulait fonder une nouvelle monarchie, elle ne pouvait l'être que par le rassemblement des Français. Et pour rassembler les Français, il fallait atténuer ce vif vent d'anticléricalisme qui n'était pas dans la nature même de la société française. Et donc, le tournant a été pris progressivement. Et vers 1835-1837, la monarchie de Juillet a cessé sa vivacité d'anticléricalisme et a cherché à réconcilier les Français avec une idée très pacifiée de la religion. Il faut dire pourquoi cette transformation, disons politique, du régime. C'est parce que la période a correspondu à un regain, l'attachement de l'opinion aux choses religieuses. Il y a pendant cette période qu'on pourrait considérer un peu comme laïque de la monarchie de Juillet, comme égoïste, si on veut, de la bourgeoisie au pouvoir qui essaye de améliorer ses intérêts, eh bien, il y a aussi une période d'extrême intensité religieuse dans la foi, dans les prédicateurs, dans les canonisations, dans les constructions d'églises, c'est un renouveau du catholicisme. Et voilà une des forces à l'œuvre. Mais elle va s'effondrer en 1848, cette force à l'œuvre, et puis elle va ressurgir assez rapidement, puisque après, le même mouvement d'anticléricalisme ne connaîtra pas de renaissance sous le Second Empire.
Alors je reviens sur, malgré tout, sur la pérennité du régime. Vous écrivez, après une fondation aussi mouvementée et avec une légitimité aussi frêle, la monarchie de Juillet aurait pu rapidement s'effondrer. Quels sont les éléments qui permettent au fond, au ressort de ne pas casser, comme il a cassé encore une fois, sous la Révolution française, avec cette fuite en avant qui est décrite par les deux messes jusqu'à Max Gallo aujourd'hui?
Oui, c'est le même mouvement, vous savez, qui est le ressort de la monarchie de Juillet, c'est celui de 1789 et de 1791,
tout
finalement,
à fait, oui.
C'est la même recherche. Et alors, le ressort, il est d'un régime moderne, progressiste, efficace, libéral, qui tire toutes les ressources du début de capitalisme pour que la France connaisse un développement économique et industriel dont l'exemple est montré par l'Angleterre. Mais il s'agit pour la France, de rattraper un retard par rapport à l'Angleterre. Et il s'agit en même temps de trouver une forme de régime qui concilie le développement de la presse, de l'information, de la lecture, de l'instruction primaire, tout simplement. La monarchie de Juillet a étendu très largement l'instruction primaire et l'instruction en général, et l'enseignement secondaire aussi. La conséquence de cette politique, c'est que les idées de liberté étaient beaucoup plus répandues. Elles avaient un point d'appui dans l'opinion, parmi la population. Donc il fallait traduire cet élargissement du corps politique dans les institutions. Ce que, encore une fois, l'Angleterre a fait très bien, en élargissant progressivement, par petites touches, le droit de suffrage. En France, cette question a fait l'objet d'un blocage à partir d'un certain moment. La monarchie de Juillet commence par doubler le nombre des électeurs. Bon, c'était le bon chemin, encore très restreint, mais enfin doublé d'un seul coup. Et on aboutit à entre 200 et 300 000 électeurs, c'est pas beaucoup, mais c'est les principaux contributeurs. Et ce mouvement, l'Angleterre l'a progressivement augmenté régulièrement pendant tout le cours du XIXe siècle. Et en France, malheureusement, la traduction politique et électorale de ce grand mouvement de transformation sociale des classes moyennes, ben, l'arrivée au pouvoir des classes moyennes, ce mouvement a bloqué sur une question de philosophie politique, de non-élargissement du suffrage. C'est là-dessus, à la fin, que l'expérience va se rompre.
Alors, donc, le ressort tient au départ, voilà. Parce qu'il y a une vraie volonté politique et il y a des mesures que l'on peut bien identifier qui font que ce régime est apprécié.
Il y a un ressort qui continue à jouer parce que, par exemple, cet élargissement du suffrage au départ, cette arrivée de nouveaux hommes politiques...
Oui. Il y a un renouvellement des élites.
Un renouvellement des hommes politiques et qui sont des gens remarquables. Les assemblées de la monarchie ont été composées d'orateurs excellents, de gens remarquables. Les mêmes, enfin, les héritiers de ceux qui avaient fait les premières assemblées de la Révolution, n'est-ce pas ? Les gens des assemblées de 1791, c'était aussi des gens remarquables. Des avocats, des lettrés, des professeurs. Donc, ils arrivent au pouvoir et ils établissent vraiment, là, le régime parlementaire. On a eu une période de régime parlementaire. Là encore, à l'imitation de l'Angleterre, mais même mieux que l'Angleterre, parce que le régime parlementaire anglais, à cette époque-là, n'a pas vraiment bien fonctionné. Le régime électoral anglais était encore plus compliqué et artificiel que le régime français. Tandis que là, il y a eu un vrai régime parlementaire, et Louis-Philippe, avec intelligence, a commencé par jouer très correctement le jeu du régime parlementaire, par impulsion très, très délicate, mais respectant le jeu du régime parlementaire, c'est-à-dire la majorité gouverne et l'opposition s'oppose. Donc le ressort, il est là. Et puis, il se détend.
Il se détend. Alors, ne soyons pas effectivement dans la géographie, il y a des forces intérieures et extérieures qui sont des forces d'opposition à ce régime. Et nous l'évoquions d'ailleurs en début d'émission, il y a ce patriotisme cocardier qui se développe et on se retrouve en quelque sorte dans une opposition entre d'une part des patriotes romantiques et d'autre part des pacifistes, que vous appelez les pacifistes pragmatiques. L'exemple type, c'est la question polonaise.
Oui, la monarchie de Juillet a été constamment contestée. De tous les côtés. Alors, c'est très difficile, n'est-ce pas, d'établir un régime qui est contesté sur sa droite parce qu'il y a l'usurpation,
oui,
et qu'il y a un courant légitimiste qui n'a pas des armées, qui reste à l'œuvre. Et puis, il y a la légende napoléonienne qui est très présente. Les acteurs de la légende napoléonienne sont là encore. Ils peuvent continuer à grogner et à ressasser les grands souvenirs. Et il y a une opinion plus jeune, mais qui reste patriote et cocardière. C'est un caractère de la population française, très vif à l'époque, qui a continué. D'ailleurs, on le voit encore en 1900. C'est lui qui a permis le combat de la guerre de 14, n'est-ce pas ? C'est la mobilisation autour de valeurs patriotiques. Ça existe de manière très forte. Et alors, la France venant de faire une révolution libérale dont elle est fière, parlementaire dont elle est fière, se croit la mission de soutenir tous les mouvements de libération en Europe et en particulier en Pologne, mais pas seulement, en Belgique, n'est-ce pas ? Et l'un des plus belles réussites de la monarchie de Juillet, c'est l'établissement de la monarchie belge, qui est une fille ou descendante de la monarchie de Juillet, qui est encore au pouvoir de nos jours, je me permets de le dire, n'est-ce pas ? Donc, le ressort, il est là. Alors, de soutenir les Polonais, bien, c'était aussi l'opinion s'enflamme pour le soutien.
Rappelons qu'à l'époque, la Pologne était divisée en trois parties.
Oui.
Et donc, c'est peut-on les appeler les Vatanguerres, souhaitaient la création, au fond, d'une Pologne à l'est de la Prusse et donc à l'ouest de la Russie.
De la Russie. C'est le combat, disons, du mouvement moderne et libéral contre les régimes très autoritaires autoritaire qui existait en Russie et en Prusse, n'est-ce pas? Donc un messianisme en quelque sorte.
Exactement. Ce qui est intéressant également de voir, c'est l'importance des créations, ce que vous dites, la création artistique et littéraire qui est foisonnante à l'époque et qui reflète en fait tous ces mouvements politiques divers et parfois contradictoires.
C'est la grande richesse de cette période. Après une période de guerre continuelle et de non-développement économique, on pouvait penser que le ressort français serait fatigué. Et on assiste à un glorieux 19e siècle dans le domaine des lettres, mais pas seulement des lettres, des arts, de la peinture, de la musique, de la sculpture, de l'architecture. Une éclosion miraculeuse et formidable. Et cette éclosion, elle a lieu dans le régime bourgeois. Et Dieu sait que la bourgeoisie de cette époque-là, ça veut dire quelque chose. N'est-ce pas ? C'est une vraie conception bourgeoise de la société. Donc, pas du tout romantique, aussi peu romantique que possible. Et les deux coexistent. Et ce sont les mêmes qui sont les bourgeois régnants et caricaturé par la presse à cause de leur ridicule souvent. Et ce sont les mêmes qui applaudissent les romantiques et qui font le public, disons, qui assiste à l'éclosion romantique. C'est une chose peu explicable de la période, mais un phénomène brillant, spectaculaire.
Je reçois Gabriel Debreuil, chancelier de l'Institut et auteur du livre « La monarchie de juillet » paru aux éditions Fayard. Nous nous retrouvons dans quelques secondes.
Retrouvez le chancelier de l'Institut de France, Gabriel Debreuil, de l'Académie française et de l'Académie des sciences morales et politiques dans les programmes de Canal Académie, évoquer cette fois un document rare d'une grande importance.
Une rare lettre datée de 1641 de Descartes à Mersenne et qui était destinée à Hobbes. Nous sommes réunis autour d'un document d'une grande importance, extrêmement précieux, qui porte à lui seul toute la gloire d'une collection.
La lettre retrouvée de Descartes, c'est sur Canal Académie.
Nous entamons la dernière partie de cette émission consacrée à la monarchie de juillet. Je reçois Gabriel Debreuil, auteur du livre donc consacré à ce régime de 1830 à 1848, un ouvrage qui vient de paraître aux éditions Fayard. Nous évoquions, Gabriel Debreuil, ce foisonnement littéraire et artistique. Il y a également le foisonnement des idées. Il y a tout un chapitre de votre livre qui est consacré au fait que apparaissent, nous sommes dans un régime qui laisse les gens penser et qui permettent justement de développer de nouvelles idées. C'est à cette époque qu'apparaissent à la fois le socialisme mais aussi le catholicisme libéral.
Oui, peut-être c'est un des atouts les plus importants de la monarchie de juillet, très frappant en tout cas, c'est la période du développement de la presse, du développement de l'information, du développement de la communication des idées et des nouvelles aussi. Ça n'a pas été facile, ça ne s'est pas fait tout seul et ça ne s'est pas fait complètement. Ce n'est pas un régime de liberté totale tel que nous le connaissons aujourd'hui. Mais tout de même, c'est un régime de très grand progrès de la presse et de grande diffusion. Et la presse donne naissance à des formules nouvelles de littéraires, de distraction, d'amusement. Elle est très vive et très imaginative, la presse, sous la monarchie de juillet. C'est la période du développement des romans feuilletons, publiés en bas de page des journaux, et que les gens s'arrachaient dès que le journal paraissait pour avoir la suite du feuilleton. Tous les grands écrivains ont écrit des feuilletons à l'époque. C'est l'époque de la caricature, d'une vivacité incroyable, se renouvelant constamment et mettant à mal toutes les valeurs de la société et tous les personnages. Évidemment, Louis-Philippe a été la première cible de la caricature. Il y a une effervescence dans cette période qui tient à la jeunesse, au dynamisme, à une confiance, à une gaieté aussi de la société française.
Il y a même un côté irrationnel, puisque vous présentez ce que vous appelez les dérives du paranormal, où on on fait des séances de spiritisme. Il y a vraiment un mouvement qui est loin de, j'allais dire, du mouvement raisonnable mettant en avant l'idée de raison telle qu'il apparaît au XVIIIe siècle.
Oui, c'est une des choses peu explicables aussi. Ça, je ne sais pas dans quel lien logique il faut placer cette éclosion de paranormal. Alors, il faut le rattacher peut-être aussi à la multiplication des utopies sociales, n'est-ce pas ? Il y a les côtés un peu onirique et même quelquefois plus dangereux que ça, de certaines tentatives, de certaines expériences sociales. Il y a les manies du spiritisme, Victor Hugo l'a expérimenté et en a parlé, mais il y a aussi les apparitions des utopies sociales qui sont elles tout à fait intéressantes, qui préfigurent le socialisme, qui ont amené la formulation d'une doctrine socialiste plus élaborée à la fin de la période, mais pendant la période de la monarchie d'Huillet, il y a beaucoup de tentatives. C'est encore une réaction de spontanéité, de recherche de nouveautés dans le domaine de la société. Ça découle aussi d'une certaine manière d'Auguste Comte, n'est-ce pas ? On cherche à comprendre quelles sont les forces qui fonctionnent dans la société. Alors certains disent, c'est de la mathématique, il n'y a qu'à mettre ça en formule, on y arrivera très bien. C'est de la mathématique sociale, n'est-ce pas ? Et puis d'autres disent, non, il faut avoir un esprit plus imaginatif, il faut savoir où nous voulons aller, et c'est le socialisme qui se formule.
Alors je voudrais revenir quelques minutes sur l'économie, parce que vous réhabilitez aussi la monarchie de Juillet sur cet aspect. On relie le renouveau économique au Second Empire. Or, l'amorce du renouveau économique, c'est bien sous la monarchie de Juillet qu'il se fait.
Oui, ça c'est la grande transformation. La France vit une période de transformation considérable, très importante, qui est l'amorce de tout le développement, en effet, ultérieur. Et cette période est parcourue de manière très volontaire, très raisonnable. Là, nous sommes en plein dans la rationalité, dans la même un étatisme bien compris, bien mené. C'est une période modèle de ce point de vue-là. C'est-à-dire que c'est un capitalisme complètement libéral. L'État n'intervient pas pour mener les affaires, mais il fournit le cadre, il met en place le cadre législatif, politique, social, d'administration, d'équipement public, qui permettra le développement de l'économie. On offre simplement le moyen essentiel qui est la société par action, c'est l'instrument du capitalisme et du développement économique, et bien il est mis en place à cette période-là. Les notions de propriété industrielle, les notions sont mises en place et sont très bien conçues par l'État. Les finances publiques sont gérées de manière impeccable. Pas un budget en déficit pendant toute la période. Une accumulation d'épargne considérable, des capitaux abondants. Donc une vraie politique économique qui permet le développement. Et donc les transformations techniques, industrielles, commerciales, surtout les transports. La grande transformation, c'est celle des transports. Il n'y a pas que les chemins de fer, bien entendu, c'est la période des chemins de fer, mais les voies navigables, les routes qui étaient en très mauvais état, la France commence à se doter, mais se dote d'un réseau de grandes routes praticables, très intéressantes, les voies fluviales et les canaux, c'était extrêmement important à l'époque, et évidemment les chemins de fer, la grande aventure, auxquels certains ne croyaient pas, en disant, attendez, c'est dangereux, il va y avoir des accidents, il ne faut pas faire ça. Et Thiers disait ça. Mais évidemment, c'est la rationalité économique et technique qui l'a emporté. Donc une période de très grande transformation et de très belle conduite de la transformation économique par un État éclairé et qui le fait très, très bien. Alors, on peut tout de même apporter quelques critiques et quelques...
Les antagonismes sociaux
terribles. Terrible. Tout cela s'est fait dans un dynamisme et dans une rapidité formidable, mais en même temps avec une injustice et une dureté surtout. très grande. Il y a un autre aspect qui est moins souvent mentionné, mais qui est que ça s'est fait avec une sagesse et une modération que n'a pas connu l'Angleterre, et encore moins les États-Unis d'Amérique, qui commencent aussi à se développer. C'est-à-dire que l'économie française, elle se développe, mais dans un cadre un peu individuel et familial. L'accumulation des capitaux ne dépasse pas le patrimoine des individus et des familles. Les affaires françaises ne se développent pas de manière anonyme, et elles le feront sous le Second Empire. Mais sous la monarchie de Juillet, c'est encore resté modéré, volontairement modéré. Et donc, l'industrie n'a pas encore toute la taille qu'elle a à l'époque en Angleterre et qu'elle aura sous le Second Empire en France. C'est une sorte de capitalisme modéré par la conception bourgeoise et familiale du patrimoine.
Alors restons sur l'économie et venons-en au tournant du règne. Je reprends l'image de mon ressort. Le ressort commence à se tendre de manière critique lors de deux moments particuliers. Premier moment, 1846, la crise économique. Et le deuxième moment qui le précède, c'est 1842, la disparition du duc d'Orléans, qui remet en cause, au fond, le principe même de la monarchie qui se transmet.
Oui. Prenons le premier, ressort qui se casse, parce que là, il se casse vraiment, n'est-ce pas ? Il se fracasse.
C'est l'expression que vous utilisez.
La dynastie fracassée. C'est un événement terrible. Louis-Philippe était vieillissant, un personnage remarquable. Louis-Philippe, la France a peu connu de roi aussi intelligent et subtil, et ayant le sens des hommes, du maniement des hommes, enfin, quelqu'un de très remarquable. Mais il est vieillissant. Et il a un fils admirable, le duc d'Orléans, moderne, beau, progressiste, bien marié et militaire très allant, et ayant participé aux campagnes d'Algérie. L'opinion l'appelait le chef de demain. Il avait des relations avec tous les milieux artistiques, littéraires et même d'opposition, puisqu'il était même adroit pour le successeur. Et voilà qu'il se tue dans un accident de voiture à cheval, brutalement, en 1842. La dynastie est fracassée, son fils a 4 ans, donc l'héritier a 4 ans. Il aura 8 ans en 1848, oui, 10 ans en 1848, donc la dynastie est ébranlée. Louis-Philippe ne s'en est pas remis, n'est-ce pas ? C'était une période terrible. Alors, la crise économique survient, en effet, très profonde, en 1847, et on s'aperçoit que les grandes secousses sociales en France ont été précédées par des dépressions économiques assez importantes. Mais ce n'est pas tout. Ce qui a provoqué l'étincelle politique, c'est la crispation du roi, il faut le dire, enfermé avec son premier ministre à l'époque, pourtant un homme extrêmement éclairé et une espèce de philosophe au pouvoir, qui était Guizot, les deux hommes s'enferment dans un conservatisme bloqué au sujet de l'élargissement du suffrage. C'est-à-dire que les catégories de la population qui soutenaient le régime, prenez les commerçants enrichis, prenez la garde nationale, qui était une sorte de gendarmerie civique, n'est-ce pas, qui soutenait le régime. Les officiers de la garde nationale, qui jouaient un rôle très important dans les provinces, dans les villes, ils étaient élus, les officiers de la garde nationale, n'est-ce pas, élus par la... Et ils exerçaient un rôle très important. Ils commandaient des bataillons de la garde nationale, et en cas de trouble, ils avaient à maintenir l'ordre. C'est une sorte de gendarmerie. Les officiers de la garde nationale n'étaient pas électeurs. Comment est-ce que cela peut s'expliquer ? Et en vertu de quel raisonnement peut-on dire que les officiers de la garde nationale ne doivent pas être électeurs ? Donc il y a une contradiction, peu explicable. Et c'est là-dessus que le ressort va casser.
Alors, vous parlez de Guizot. Guizot, lui, accuse la démocratie. Louis-Philippe, lui, pense que c'est la crise du principe d'autorité. Victor Hugo, lui, de son côté, estime que le régime, au fond, était trop bourgeois, pas assez fédérateur. Est-ce qu'il manquait, au fond, de vision nationale ?
Enfin, Victor Hugo a développé cette conception-là avec son génie. Il l'a évoqué en 1830, il a célébré 1830 comme un événement flamboyant, magnifique, merveilleux, et je cite d'ailleurs quelques strophes de ses poèmes enthousiastes. Il l'a développé par la suite. Je pense pas qu'il ait complètement raison. Je pense que la monarchie de Juillet a fait des efforts considérables pour rassembler les Français. C'est un des thèmes et un des succès. Alors, les gouvernements l'ont fait dans toutes les occasions possibles. Certaines sont bien connues de tout le monde. C'est le retour des cendres de Napoléon avec le faste et la cérémonie nationale formidable que cela a été. Mais c'est aussi l'Arc de Triomphe, c'est la place de la Concorde, l'obélisque, c'est une quantité de choses. C'est Versailles.
L'enseignement.
C'est Versailles, toutes les gloires de la France. Versailles dédiée à toutes les gloires de la France. C'est l'enseignement, n'est-ce pas ? C'est les monuments historiques. Il y a une œuvre tout à fait considérable pour rassembler les Français. Donc on ne peut pas dire, comme a tenté de le faire Victor Hugo, mais un peu après, que la monarchie de Juillet n'a pas eu ce rôle fédérateur. Le rôle fédérateur, il supposait qu'on élargisse le suffrage. C'est tout. Il suffisait qu'on ne garde pas à l'écart de la sphère politique les catégories de la population qui, par leur instruction, instruction voulue par le pouvoir, par leur rôle dans la société, avaient évidemment la vocation à exercer le rôle politique de l'électeur.
Dans un de vos chapitres, donc sur cette fameuse réconciliation des Français, vous écrivez « En 1830, il y avait donc des antagonismes mémoriels complexes qui ont facilité l'avènement de la monarchie de Juillet, tout en menaçant simultanément de produire d'autres séismes potentiellement aussi déstabilisateurs. » Est-ce à dire que dès le départ, le ver était en quelque sorte dans le fruit ? Est-ce qu'on va retrouver les mêmes antagonismes mémoriels en 1848 ?
Ce sont les virtualités des forces à l'œuvre, oui. Je reviens à ce que nous disions au départ, qui sont là et dont on ne sait pas comment elles vont se combiner. Et pendant un certain temps, elles donnent une combinaison parfaitement efficace et progressiste. Et puis, les choses s'orientent autrement. Tant qu'on sache vraiment très bien, c'est très complexe, n'est-ce pas ? Il faudrait modéliser l'évolution des idées, les forces sociales, ça n'est pas encore fait. Et cela se détend et cela se casse à partir d'un certain moment. C'est dû aussi à une lassitude de l'opinion, c'est dû à peut-être l'égoïsme de la monarchie, de la bourgeoisie aux affaires, qui a abusé sans doute de ses positions, et c'est elle qui est à l'origine tout de même de la fermeture, du blocage électoral, du blocage politique aussi, parce que qui dit blocage électoral dit aussi évidemment blocage politique parmi les élus. On a beaucoup critiqué les députés fonctionnaires qui évidemment assuraient au gouvernement qui les employait une majorité facile. À l'époque, c'était possible que les députés soient fonctionnaires ou les fonctionnaires députés. On a beaucoup critiqué cela. Il y a eu quelques scandales d'opinion qui arrivent de manière épisodique, et pas d'un personnage considérable qui est le duc de Pralin assassine sa femme. Bon, c'est terrible, mais c'est quand même pas la monarchie de Juillet qui en est responsable, n'est-ce pas ? Donc, une conjonction d'un certain nombre de facteurs. Mais ce n'est pas l'élément, je crois, ce n'est pas l'élément déterminant. D'autant plus que si ce que vous disiez de Victor Hugo était vrai, alors le renversement du régime et la libération, l'établissement de la République, d'une autre République, la Deuxième République, aurait dû rassembler les forces, aurait dû concrétiser cette aspiration. Ça a été vrai pendant un an, mais ça a immédiatement cassé.
Mais le suffrage universel, justement, qui est installé, n'est-ce pas la réponse à ce que n'a pas voulu la monarchie de Juillet ?
Ça, il a été démontré que non, n'est-ce pas ? C'était la France a fait un saut brutal dans le suffrage universel alors qu'elle n'y était pas préparée. La démarche anglaise est beaucoup plus pratique et pragmatique. Elle consiste à élargir progressivement le suffrage de manière à ce que les conditions même d'exercice du suffrage universel soient réunies Ces conditions, elles ont été bien connues, bien posées. Hein, c'est les Lumières, une certaine indépendance des électeurs, des conditions de scrutin qui soient très correctes et qui assurent la sincérité du scrutin, et puis une organisation de l'opinion qui fasse qu'avec des groupes, des partis politiques, des associations, il y ait une sorte d'organisation de l'opinion. Rien de tout ça n'existait. On plonge une population qui n'a jamais exercé le suffrage dans le suffrage universel brusquement. Ça a donné une assemblée archi-conservatrice en 1848, monarchique et conservatrice, n'est-ce pas, qui a réagi avec une brutalité sans faille aux premiers désordres sociaux, les journées de juin 1848, ce sont les élus, n'est-ce pas, du suffrage universel qui ont réprimé de manière sanglante les journées de juin 1848. Et cela a donné l'élection, dans une élection présidentielle célèbre, où était candidat Lamartine, le beau poète républicain, le général Cavaignac, solide gouvernant, et un inconnu, Louis-Napoléon Bonaparte, qui avait pour lui son nom, et on connaît le résultat, et il a eu 80% des suffrages.
Est-ce que, bon, c'est, ma question nécessiterait une émission à part entière, mais est-ce qu'au fond, ce qui fait le succès de Napoléon III, du futur Napoléon III, ce n'est pas le fait qu'il soit un homme du XIXe siècle, alors que Louis-Philippe, lui, vous le dites d'ailleurs à la fin, apparaît comme un homme du XVIIIe.
Vous avez parfaitement raison, c'est cela la vérité. C'est cela la vérité, c'est difficile d'en faire un reproche, n'est-ce pas, mais la vérité c'est que Louis-Philippe est un personnage très séduisant, fascinant même à certains égards, mais c'est un homme en effet du XVIIIe siècle, et ce que je dis c'est que son projet politique, lorsqu'il arrive, il est en position de pouvoir le réaliser, il date déjà de 40 ans. Au fond, il peut faire en 1830 ce qu'il aurait fallu faire en 1790. Voilà toute l'histoire. Et il le fait, mais c'est 40 ans trop tard. Et comme il vieillit, 18 ans de plus tout de même, il ne modernise pas son projet et il continue à essayer de mener sagement, subtilement, de manière extraordinairement attentive, un projet qui est décalé par rapport aux forces à l'œuvre qui, elles, sont considérables. Louis-Napoléon Bonaparte capte ça beaucoup mieux, évidemment. Il n'y a pas que son nom. Il y a ce qu'il fait vibrer dans la société, dans les forces sociales. Et si le Second Empire a si bien réussi, c'est une période de grand succès, c'est que là aussi, nous avons eu un souverain, Napoléon III, subtil, compliqué, mais génial, qui a su capter avec une adresse extraordinaire, on ne sait pas comment il a été formé à faire ça, mais qui a su capter tous les courants de la société. Et donc, bah, ça a duré 20 ans.
Eh bien, c'est sur cette comparaison entre les deux régimes que nous allons nous quitter. Merci beaucoup, Gabriel De Broglie, d'avoir répondu
à
mes questions. Je rappelle les références de votre ouvrage, donc La Monarchie de Juillet, 1830-1848, un ouvrage paru aux éditions Fayard. Merci et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'Histoire.